lanceuse d'alerte, telle une Eric Fatiha Brokovich, mais un plus berbère et un plus en colère.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Non, 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 vous n'êtes pas sur France Inter, nous ne sommes pas lundi, il n'est pas 9h05, mais c'est bien Sophia Aram que vous venez d'entendre, Sophia Aram qui est aujourd'hui notre invitée sur RFI et qui a donc délaissé ses habits d'humoriste matinal sur la chaîne de service public voisine. Bonjour Sophia Aram.
Bonjour Pascal.
Tante Fatia, c'est l'une de vos inventions ?
Oui, j'ai beaucoup de tendresse pour ce personnage parce que c'est une tante imaginaire. J'ai pas de tante qui s'appelle Fatiha, mais j'ai une grand-mère qui s'appelait Aïcha et plein de tantes qui parlent comme ça. Et ce que j'aime chez elle, chez ce personnage que j'ai créé en m'inspirant de toutes ces femmes qui m'ont entourée, c'est leur appropriation de la langue française avec ce qu'elles avaient comme bagage et leur bon sens.
Tante Fatia, c'est vous, pour paraphraser Flaubert ?
C'est une partie de moi. C'est une partie de mon de ce que je suis, en effet.
Ouf, j'ai passé le cap de la première question. Parce que avec vous, je vais avancer sur des œufs aujourd'hui, puisque vous publiez La question qui tue. C'est donc un petit livre où vous faites l'inventaire de toutes ces questions et ces remarques que vous appelez des perfidies ordinaires, des maladresses ou carrément des micro-agressions. Et il y en a pas mal, donc j'ai vraiment tout regardé pour pas poser la question qui tue.
Oui, non mais tout va bien se passer, ne vous inquiétez
vous
pas.
Vous êtes sûr, je suis un peu tendu.
Mais non, bon, je sais qu'on est tous procureurs en France, hein, notre président l'a dit, mais non, non, tout va bien se passer. L'idée, c'est pas de faire un gros procès d'intention à toutes les questions qu'on nous pose, simplement, c'est quelque part de questionner la question, de ce qu'il y a derrière ces questions.
Mais quand même, j'ai éviter un certain nombre de questions. Par exemple, votre prénom, c'est Sophia ou Safia ?
Non, mais celle-ci, vous ne seriez pas pris un bourre-pif. Mais vous auriez quand même, il vous serait arrivé des bricoles. Parce que je crois que c'est une des questions que j'ai le plus entendues dans ma vie. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Quand
mais
on
à ce point-là, alors vous dites, je ne la pose pas, je ne l'ai pas posée, je n'ai rien dit, etc.
Ouais,
parce que
ouais,
c'est
ouais,
réservé
c'était habile,
aux
c'était
cons.
Habile, c'était habile.
Donc je n'ai pas du tout envie d'avoir... Mais non, comment non. Se fait-il qu'on vous pose cette question-là ?
Eh bien, je vous pose la question. C'est-à-dire que, sous prétexte que je suis d'origine marocaine, mes parents sont marocains, sous prétexte que, ben, je ne sais pas, aujourd'hui j'ai un métier public, j'aurais décidé de cacher mes origines en utilisant un prénom un peu plus passe-partout. Mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que j'aurais eu honte d'avoir un autre prénom. En fait, ce qu'on sous-entend, c'est ça. C'est si mon prénom, c'était Safia, Farida, Fousia, j'en sais rien.
Ça collait davantage aux préjugés.
Exactement. Et puis, mais si ça avait été le cas, je l'aurais caché. C'est ça qu'on pense.
Alors que vous êtes italienne, puisque non. Sophia, vous le racontez dans ce livre, oui. C'est grâce à votre papa et à Sophia Loren, cette actrice à la fois très voluptueuse et formidable.
Exactement comme moi, c'est-à-dire voluptueuse, c'est moi. C'est
formidable, c'est vous.
Oh, c'est gentil.
Vous racontez comment est né ce livre. Et alors je trouve, je ne sais pas si vous voulez raconter la scène, mais c'est exceptionnel.
Ce dîner à Boulogne-Billancourt. En région parisienne.
Où j'habite.
Non mais tous les Boulonnais.
Les Boulonnais.
Tous les Boulonnais ne sont pas comme ça. Simplement,
non, pas tous.
C'était un dîner avec des tas d'amis et donc un couple d'avocats que je ne connaissais pas. Et la discussion est partie, on commence à se marrer. On fait le show, on se rend compte qu'on fait le show tous les trois. Quoi. Le couple d'avocats et moi, puis le mec, tout à coup, emporté par un élan, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il me dit, mais dis donc, toi qui viens de Trappe, t'aurais pas un plan shit ? Et j'ai pris ça en pleine face, parce que, quelque part, c'était peut-être c'était rigolo, ça fait rire tout le monde, hein, donc oui, peut-être c'était rigolo, sauf que moi, ça me renvoyait à quoi ? Toi qui es originaire de Trappe,
de la banlieue,
tu es d'origine maghrébine, donc tu deal, donc t'as du shit. C'était, pour moi, assez violent. J'ai trouvé ça assez violent, parce que ça me ramenait à une espèce de regard social, de jugement un peu dur. Et j'y avais jamais été confrontée. Là, c'était un peu frontal. Et ben, ma répartie a été, bon, c'est celle qui m'est arrivée. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien ce que j'ai répondu, mais j'ai dit, bah, toi qui viens de Boulogne, t'aurais pas un plan pute.
Parce qu'il y a le bois de Boulogne.
Rapport au bois de Boulogne. C'est ça.
Mais c'est quand même la réplique qui tue.
Bah ouais, et c'est pour ça que j'en suis pas fière. C'est-à-dire que oui, moi aussi, j'ai répondu par un préjugé, quoi.
Oui, mais en fait, j'ai quand même beaucoup ri en vous lisant, et je me suis demandé qui est mort des deux. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est lui?
Peut-être tous les deux. Je crois que c'est une balle de mort, quoi.
Il y a eu un petit silence, j'imagine.
Il y a eu un froid. Mmh. Ouais, ça a pas chauffé l'ambiance.
En tout cas, vous avez de la répartie et vous êtes bien vivante, mais quand même, ces questions font mal.
Elles peuvent faire mal, pas toujours, mais elles peuvent faire mal. Ce que je veux pas, c'est qu'on pense que l'idée, c'est d'empêcher les gens de questionner l'autre et de s'intéresser à l'autre. Non, c'est super bien. En revanche, ce que je veux questionner, c'est le préjugé qu'il y a derrière la question. C'est-à-dire que quand vous demandez à une fille jolie si elle a fait des études supérieures, c'est quand même hyper réducteur. Et simplement, peut-être qu'on ne pense pas à mal quand on pose cette question. Quand on demande à quelqu'un qui est en situation de handicap, qui est en fauteuil, on lui demande s'il habite dans un appartement. Ça, c'est un copain qui me l'a envoyé. Mmh, hein. Mmh. C'est vraiment... Il m'a dit,
non, oui, c'est des choses vécues.
Oui, pas toutes. Certaines, je les ai un tout petit peu arrangées, un peu transformées, mais j'en ai recensé. Il y en a une grande partie qu'on m'a envoyée. Et on continue de m'en envoyer aujourd'hui.
La question qui tue, la question qui pue, la question gaiement homophobe, grassement grossophobe ou banalement raciste. Vous avez donc fait l'inventaire, Sophia Aram, de ces petites horreurs de la vie quotidienne, quand même sans jamais oublier d'en rire.
Oh bah, l'idée,
peu,
c'est ça.
Pas toujours. Hein.
Pas toujours, parce qu'il ne faut pas oublier que certaines peuvent faire mal. Et puis surtout, votre intention n'est pas forcément mauvaise, mais vous êtes peut-être le centième dans la journée à la poser à cette personne, cette question qui tue. Et c'est peut-être vous qui allez apporter le coup de grâce sans vous en rendre compte.
Oui, c'est
et
la
sans
répétition qui
exactement.
Est dure. Sophia Aram, si je vous dis banane bleue, vous n'y voyez pas de mal?
Non, je ne vous dis pas ce que je vois.
Banane bleue, le nouvel album de François and the Atlas Mountain, de la pop exotique pour le plus british des groupes français. Extrait du nouvel album de François and the Atlas Mountain sur RFI. Coucou, coucou, notre invité est l'humoriste Sophia Aram qui publie La question qui tue. C'est l'inventaire des horreurs quotidiennes que l'on aimerait ne jamais entendre. Mais c'est aussi un guide, me semble-t-il, de savoir-vivre pour interroger la question, comme vous le disiez. Et puis aussi un manuel de survie en milieu hostile parce que vous donnez des pistes pour avoir la réplique qui tue.
Oui, alors le milieu hostile, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas... Un milieu avec un regard pas toujours bienveillant et qui comprend pas toujours ce que vous êtes, d'ailleurs. Parfois, c'est la méconnaissance hein, qui fait ça. Donc oui, je donne des pistes, modestement. Après, chacun se débrouille, hein. On est tous confrontés, donc on sait tous à peu près gérer. Hein.
Mais honnêtement, quand même, j'ai parfois eu du mal à vous suivre ou à imaginer que ce que vous écriviez était vrai. J'ai eu du mal à vous croire, en fait.
Allez.
T'es juif, on dirait pas. Ou t'es super belle pour une noire. Ou encore t'es arabe et t'aimes pas le couscous.
Mais
on peut pas dire des choses comme ça.
Mais bien sûr que... Alors, on ne devrait pas, mais on les entend, évidemment. Mais hier, pas plus tard
mais
qu'hier.
Mais je suis bénie, oui, alors.
Ah bah, vous êtes vous vivez dans un monde merveilleux. Je sais pas ce qu'ils prennent à Boulogne-Billancourt, du coup, voilà. Voilà une micro-agression. Mais je vous assure que si. Hier, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle venait de lire La question qui tue et elle m'a dit, tu peux en ajouter une. Elle a un de ses collègues qui est laotien et un client l'a appelé. Voilà, un client a appelé pour demander ses lunettes. Ils sont opticiens. Il l'appelle et lui dit, salut Bruce Lee. C'est complètement anodin, hein. Comme ça, c'est joyeux, c'est le truc rigolo, mais ça va pas la tête. Le laotien, tu l'appelles Bruce Lee, non mais qu'est-ce qui peut te passer par la tête? Donc oui, les gens se sentent parfois libres de vous dire des horreurs comme ça. Et il y a l'agression verbale, et puis parfois, c'est physique, hein. Je raconte, quand j'étais enceinte, tout le monde venait me toucher le ventre. Tout le monde venait poser ses mains sur mon ventre. C'est un truc qu'on ne me demandait même pas la permission. Ou alors on disait « je peux toucher », ils avaient déjà les mains sur mon ventre. Moi, je me suis sentie agressée parce que je n'avais pas l'habitude qu'on me touche comme ça dans la rue. Mais ce ventre ne m'appartenait plus. Et j'ai trouvé ça très, très dur à vivre. Et puis, il y a les petits-enfants aux cheveux crépus à qui on touche les cheveux dans la poussette. Parfois, de manière complètement anodine. Et je peux toucher ses cheveux et ils ont déjà la main dans la tête de l'enfant. Imaginez le nombre de fois que ça arrive à ce pauvre petit bonhomme ou cette pauvre petite bonne femme à qui on fait ça dans une journée. Mais ça finit par être une véritable agression, en réalité. Et les gens le font, évidemment qu'ils le font, évidemment qu'ils les posent, ces questions. Un copain juif qui vit dans un quartier populaire, qui vivait à Trappes, voilà, pour pas nommer la ville. Vous étiez juif et t'habites ici. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, il y a bah, les juifs sont riches, les juifs n'habitent pas là, les juifs, vous êtes solidaires dans votre communauté. Enfin, tous ces préjugés qui pèsent une tonne.
Et vous conseillez quoi? Est-ce qu'il faut répondre? Vous suggérez d'interroger celui qui pose la question en lui disant mais pourquoi tu dis ça?
Ouais, répondre à une question par une question, c'est parfois ce qui peut vous sortir. Puis surtout, c'est simplement questionner l'autre sur ce qu'il y a derrière son préjugé. Et le confronter, en réalité. Parce que parfois, comme je vous dis, c'est l'inconscient, c'est là. Et si vous vous posez la question, c'est vraiment, pourquoi tu penses que je suis juif et que je ne devrais pas habiter là?
Oui, donc du coup, ça détricote un petit peu la logique qui est derrière
ces
questions.
Ça emmène votre interlocuteur à expliquer d'où vient sa question et en le faisant peut-être à prendre conscience du préjugé, de l'ampleur du préjugé.
Personne n'est à l'abri, en fait, de ces questions qui tuent, pour reprendre le titre de votre livre, Sophia Aram.
Absolument personne.
Mais les minoritaires sont quand même un petit peu plus ciblés.
Alors, les minorités sont multiples, hein. Ce ne sont pas que des minorités raciales, hein. Je l'expliquais tout à l'heure, je vous disais, les personnes en situation de handicap, les personnes trans qui, pour moi, sont les personnes les plus discriminées au monde encore aujourd'hui et qui subissent le plus de violence. Alors là, ce n'est pas des micro-agressions, ce sont des agressions tout court. Les personnes en fauteuil, pour qui le monde n'est pas adapté à leurs conditions, et les personnes en situation de handicap non visible, alors là, je ne vous raconte même pas ce qu'elles subissent quand vous avez un handicap et que ça ne se voit pas. Les femmes, qui ne sont quand même pas une minorité sur cette planète.
Je crois même qu'elles sont une majorité.
Elles sont même majoritaires. Et bien pourtant, elles sont victimes aussi de ces questions qui tuent et de ces discriminations et de ces préjugés. Et non, je pense qu'on peut questionner toutes les réactions à la différence en réalité. C'est ce qui n'est pas vous.
Que la différence soit sexuelle dans un monde machiste, alimentaire, religieuse ou physique.
Exactement, elles sont multiples. Mais en réalité, j'ai aussi moi-même posé des tas de questions qui tuent. Hein. Je suis moi-même aussi porteuse de plein de préjugés.
Mais est-ce qu'il y a du rire ou de la colère quand vous écrivez ce livre, Sophia Aram? Je pense à la colère de Fatia, là, qu'on a entendue tout à l'heure au début de l'émission.
Oh, y a souvent des deux. Hein. Dans ce que j'écris, généralement, c'est souvent mêlé. C'est souvent mêlé dans mes spectacles et dans ce livre. C'est un mélange des deux. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas mal vécu. J'ai pu avoir des petites colères, mais rien. J'ai pas de souffrance profonde. Mais je pense qu'il y a des personnes qui ont souffert. Après, l'idée, c'est pas de se poser en victime, mais d'essayer de prendre conscience qu'on peut faire du mal à l'autre, parfois, sans même s'en rendre compte.
Mais peut-on rire de ces petites phrases qui tuent? quand même.
Bon,
oui.
Bon, non, mais l'idée, c'est pas de se prendre la tête encore. Je suis pas là en train de faire. Ce que je répète, je suis pas là pour faire le plus grand procès d'intention du monde. Je n'en ai pas l'intention. Ça ferait chier tout le monde. C'est pas l'idée, c'est pas le projet. Non, l'idée, c'est simplement.
Vous allumez une petite veilleuse, quoi.
Je voudrais juste qu'on accepte l'autre comme il est. Alors, je sais, ça fait bisounours, ça ne me ressemble pas, mais pourtant, c'est vraiment ce que je suis au plus profond de moi-même. Je refuse l'assignation, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que votre regard a une norme. Vous allez me voir d'une certaine manière. Si vous pensez que je m'appelle Safia, c'est que vous avez un regard normé sur ce que je devrais être et sur ce que je suis. Et donc, je le refuse. Je veux être moi et je veux être ce que je suis et j'aimerais vous inviter à l'accepter.
Sophia Aram, en tout cas, ces petites phrases, le cinéma en a fait son miel. Exemple avec les trois frères, c'est une comédie qui date un petit peu déjà, qui a 25 ans et qui a été réalisée par ce trio comique Les Inconnus.
Merci.
C'est un plat typique de chez vous?
Ah non, pas du tout. Non, mais je suis pas né dans les îles, moi. Je suis de Paris.
Ah bon?
Oh, t'as bien un petit chromosome avec un os dans le nez, hein? Non, c'est de l'humour, ça. C'est de l'humour. Chut. Que je me fâche pas avec mon futur associé, moi, dis donc, quand même.
Le fameux dîner de la comédie Les Trois Frères. Alors, on s'aperçoit là quand même, Sophia Aram, que l'humour peut servir de cache-sexe au racisme.
Bon, bien
ou
sûr.
À l'homophobie, ou à la grossophobie. Donc, l'humour est à double tranchant sur ces questions-là.
Oui, bien sûr. Mais après, tout dépend de qui le porte, hein, parce que parfois, ça peut être juste raciste pour être raciste. Hein,
oui, sans humour aucun.
Sous couvert de blagues. Non, si, parfois, ça se veut rigolo. Mais en fait, je suis pas sûre que si c'est quelqu'un d'extrême droite qui vient vous faire une blague sur les Arabes ou les Juifs, je suis pas sûre que ce soit complètement anodin.
Alors là, dans ce film, on est dans la caricature, mais à vous lire, j'ai le sentiment, et vous le dites d'ailleurs, qu'on vit dans la caricature.
On peut vivre dans la caricature.
Mais est-ce que ça n'a pas évolué quand même ces 20-30 dernières années, le rapport à l'autre, à l'altérité, à la différence?
Bah, dans certains domaines, oui, évidemment, et heureusement. Tous ces gens qui vous disent qu'on ne peut plus rien dire, c'est des gens qui sont nostalgiques de quoi? Qu'est-ce qu'ils regrettent du passé, de cette période où on pouvait traiter un juif de youpin, de cette période où on traitait les Arabes de melon et de bicot? C'est ça qu'ils regrettent? Non, c'est sûr, on ne peut plus le dire, non? Et est-ce que quelqu'un est triste de ça? Ben non. Franchement, le c'était mieux avant, j'en suis pas tout à fait sûre. Maintenant, faut pas plonger dans l'extrême non plus. C'est-à-dire, je veux pas être la police du ce qui se dit, ce qui se dit pas. Mais je pense qu'on est plus vigilant aujourd'hui. Et c'est la démarche aussi de ce petit livre. C'est aussi d'inviter l'autre à être sensible à l'interlocuteur.
Vous parlez de bienveillance ou d'attention à l'autre, mais est-ce que vous réclamez aussi une forme d'indifférence? Parce que il y a une question qui m'a un peu titillé. Vous dites, tu es né où? Vous dites que cette question peut blesser. Je comprends très très bien dans quel contexte elle peut blesser, mais en soi, la question, sauf à être très très politiquement correcte, elle peut exister. Vous pouvez me demander où je suis né et je peux vous demander où vous êtes né.
Évidemment, mais moi si je vous réponds que je suis né à Ris-Orangis, la plupart du temps, moi, quand je réponds que je suis née à Ris-Orangis, ça ne suffit pas. Ce qui intéresse les gens, ce sont mes origines. Alors, peut-être...
On revient toujours à cette question-là.
Non, mais peut-être par intérêt simplement de mes origines, et c'est peut-être sincèrement pour savoir quelle est mon histoire. Et ça, je l'entends et je l'accepte. En revanche, si c'est me ramener toujours, toujours, toujours à mes parents, je ne suis pas sûre que vous, on vous demande d'où venaient vos parents.
On me demande d'où je viens.
Et si vous répondez... Que vous êtes né à Boulogne-Billancourt?
Non.
Non, vous n'êtes pas né.
Je ne suis pas né à Boulogne-Billancourt, je suis un bon provincial comme tout parisien. Non, mais on me demande est-ce que je suis basque? Et alors là, il faut expliquer que. Vous voyez, bon, enfin bref, je ne vais pas raconter ma vie.
Non. Mais moi, ça m'intéresse, vous savez, Pascal, vous pouvez me raconter votre vie.
Bon, un autre jour, un autre moment, à une autre heure.
Mais je suis sûre que vous avez subi des micro-agressions.
On en a tous subi, oui, bien sûr.
Évidemment. Et moi, c'est ce qui m'intéresse avec ce bouquin. C'est non seulement vous en avez subi, mais aussi vous en avez produit. Et c'est vraiment ce que j'aimerais qu'on réalise aujourd'hui. C'est que moi, quand je dis à une copine « Oh la vache, qu'est-ce que t'es grande !» c'est pas méchant quand je le dis, parce qu'elle est vraiment grande. Et sauf que je réalise que si elle avait été petite, je lui aurais dit, j'aurais jamais dit « Oh la vache, qu'est-ce que t'es petite !» Je ne l'aurais pas dit.
Mais je connais des jeunes filles qui souffrent d'être trop petites. Et qui ne supportent pas qu'on le leur dise tout le temps.
Et mais évidemment, mais de la même manière, je connais des femmes et des hommes qui souffrent d'être trop grands.
Mais en fait, c'est le vocabulaire qui est piégeux. Aussi, il y a les intentions, mais il y a aussi le vocabulaire. Une formule toute bête, « Bienvenue en France ». Ben voilà, vous l'épinglez dans votre livre « La question qui tue, Sophia Aram ».
Mais oui, parce que ça peut aussi réduire. C'est-à-dire « Bienvenue en France », mais moi je suis française, mon chéri. Donc pourquoi bienvenue en France ? Mais je vous appelle mon chéri parce qu'on est bien là, à RFI, on est entre nous, c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Et ça n'est pas une micro-agression. Mais non, mais bien sûr, bienvenue en France, ça peut être complètement une micro-agression. Tout dépend, encore une fois, la façon dont c'est dit. Si c'est bienvenue en France, si vous êtes étranger et que vous
que c'est à Orly ou à Roissy, avec ça, une grosse valise.
C'est la première fois que vous venez au pays, oui. Mais quand vous êtes français, c'est vexant.
Alors, en tant qu'humoriste, Sophia Aram, puisque c'est votre activité principale...
Génératrice de revenus.
Génératrice de revenus, c'est peut-être un petit peu plus que ça, quand même.
Non, c'est une passion.
C'est une passion. Est-ce que vous vous mettez aussi sous surveillance pour ne pas blesser ?
C'est une bonne question.
Et j'ai envie de rajouter, pendant que vous réfléchissez,
allez-y.
Même si ce sont des personnalités publiques que vous taclez...
J'essaye de ne jamais m'en prendre au physique. J'essaye. J'ai dû faire des blagues sur la taille de Nicolas Sarkozy et c'est pas ce dont je suis le plus fière, mais c'était un peu la facilité parfois. L'étalonnette, on y est tous un peu allés et franchement, c'est vraiment pas quelque chose que j'assumerais aujourd'hui parce que je me dis que c'était pas terrible à l'époque. Mais on était tellement anti-sarco, tous ceux qui se sentaient anti-sarco, il y avait, on ne l'aimait pas, donc on y allait. Donc ça, j'avoue, les attaques au physique et après blesser, quand on est une personnalité publique, moi, c'est aussi ce que j'accepte, moi, à ma petite échelle. C'est les critiques. Enfin, franchement, vous pouvez dire ce que vous voulez sur ma tronche, sur ce que je suis. Ça m'atteint pas. Enfin, c'est le jeu. C'est le jeu. Et surtout, dans ma position qui est d'attaquer, j'accepte les attaques. Et je pense que globalement, la plupart l'acceptent aussi, à deux, trois près. Je veux dire, à part Nadine Morano, qui n'a jamais compris que j'étais humoriste, qui croyait que je venais faire le journal. On est parti d'un gros malentendu avec Nadine Morano. Elle croyait vraiment que je venais faire le journal. Et donc, ça s'est pas bien passé. Mais ensuite, elle a mal pris parce qu'elle a aucun recul sur elle ou elle a aucun second degré. Et puis voilà, je pense que on peut bien le prendre, franchement.
Sophia Aram, il y a votre livre, il y a vos spectacles, mais en ce moment vous vous faites...
Ils sont confinés.
Un peu rares, on sait bien pourquoi. Et puis il y a donc vos chroniques à la radio qui me font hurler de rire, par exemple.
Ah, comment vous dire ? Je suis inconsolable depuis que le roi Abdallah le pauvre... Enfin, le pauvre façon de parler, depuis qu'il est mort. Ah là là, toute la journée, juste, je pleure. Ah, alors, pour être tout à fait sincère, moi, au début, quand on m'a dit « Abdallah, il est mort », bon, d'abord, je n'avais rien à foutre. Et puis, c'est au moment où j'ai regardé la télévision en cachette avec ma bonne Philippine, c'est là que j'ai entendu Christine Lagarde, la présidente des Fonds monétaires internationaux, quand elle a dit
« In a very discreet way, he was a strong advocate of women ».
Ça voulait dire que d'une façon très discrète, le roi Abdallah était un fervent défenseur des femmes. Alors sur le coup, je me suis dit, ah, c'est tellement vrai et discrète que je n'avais pas vu tout ce qu'il avait fait pour les femmes. Ah, ça ne m'avait pas sauté aux yeux.
Est-ce que vous vous en souvenez, Sophia Aram ? Parce que 5 ans après, en vous réécoutant, je ris encore. C'était au moment de la mort du roi d'Arabie Saoudite.
Ah ben oui, je me souviens très très bien. Je ne me remets pas de cette phrase de Christine Lagarde. Mais qu'est-ce qui lui a pris ? Elle n'a rien trouvé d'autre comme hommage à rendre au roi Abdallah que de dire qu'il avait fait beaucoup pour les femmes. Mais elle a bien précisé, in a very discreet way.
Alors c'est d'une ironie absolument cinglante et ravageuse. Vous avez la chronique qui tue, Sophia Aram. Et derrière, il y a cette dimension féministe qui est une de vos composantes. Vous débusquez partout le sexisme.
Oh, je le laisse pas passer, en tout cas. C'est pas une obsession chez moi, mais simplement, je le laisse vraiment pas passer. Mais ça remonte à mon enfance. Hein.
Pourquoi ?
Comme ma grand-mère disait à mon frère de rester assis pendant que nous, on débarrassait, je laissais pas passer. Enfin, je lui disais, ça va, il a deux bras de jambes, il va débarrasser avec moi, et oh. Et pour ma grand-mère, un garçon ne devait pas débarrasser la table. Et je lui dis, s'il s'assoit, je m'assois. Et la table va se débarrasser toute seule. Et, Et ça créait des débats, ça créait des tensions, et j'étais assez contente de ça. J'ai commencé toute petite, hein. J'étais vraiment la mouche du coche.
Oui.
La quatrième de six, je vous assure, ça renforce les défenses immunitaires. Hein. On est prompt au débat et au combat. Et surtout, on était quatre filles et deux garçons, et ma grand-mère avait tendance à vouloir mettre les garçons sous bulle. Et alors, non, les quatre sœurs, je peux vous dire qu'on a lutté.
Ah, vous êtes les quatre pareilles.
Ah ouais.
Waouh.
Mais les garçons sont féministes maintenant.
Bonne éducation alors.
Ah, ils avaient pas le choix.
Grâce aux sœurs. Vous avez aussi l'athéisme vissé au corps.
Oui, ça j'ai arrêté. Pareil, c'est arrivé très tôt. Hein. J'ai arrêté de croire en Dieu quand j'ai compris que le Père Noël, s'il y a des enfants qui écoutent, il faut les enlever du poste, que le Père Noël n'existait pas. Donc, je m'étais dit que cette espèce de personnage omniscient qui voyait tout, qui pouvait tout, quand je regardais les horreurs du monde, quand je commençais à voir toutes ces tragédies qui arrivaient à ma hauteur d'enfant, je me disais, mais il peut pas avoir pensé tout ça. Donc moi, honnêtement, je me disais que tout ça, ça ne pouvait pas être l'œuvre de quelqu'un. Donc Dieu, c'était vraiment une grosse fumisterie. Et puis j'ai fait ces petits trucs de « on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça », donc je m'enfermais, puis j'essayais. Et la foudre ne m'est pas tombée dessus. Et je me disais « oh, mais en fait, il ne me voit pas, il ne m'écoute pas, donc en fait, il n'existe pas ».
Donc, pour vivre heureux, vivons cachés.
Sans déconner, je pense que si, comme disait Woody Allen, si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse.
Et l'humour, vous l'avez vissé au corps, vous l'avez raconté la seconde dès l'enfance, mais quand même, comment vous l'avez travaillé? Parce que ça se travaille, vous n'êtes pas drôle comme ça par nature.
Moi, j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait fédérer, qu'on pouvait être chef de bande, qu'on pouvait être le centre d'attraction en faisant marrer les copains. J'étais une petite binoclarde première de la classe au premier rang parce que j'avais des très très grosses lunettes. Et je n'aimais pas cette assignation à la binoclarde première de la classe. J'étais binoclarde et première de la classe, mais j'avais aussi envie d'être la bonne camarade. Et donc j'ai compris que l'humour, c'était vraiment un truc. Donc j'essayais de faire rire les copains, j'imitais les profs. Et ensuite, j'ai commencé à faire de l'improvisation théâtrale. Et ça, ça a été une école assez efficace.
Donc l'humour, c'est à la fois pour séduire et c'est une arme de dissuasion.
Alors séduire, pas au sens pécho, hein, c'est pas du tout un truc qui emballe les
plaire.
Mecs.
Plaire.
Alors ça c'est quand même un truc, plaire oui, mais les femmes, on n'emballe pas quand on est humoriste. Les garçons, peut-être, les femmes peut-être trouvent un homme drôle, séduisant, les hommes ne trouvent pas une femme drôle, séduisante. J'ai essayé. Je dissuade les filles, si elles veulent emballer avec l'humour, ça marche pas. En revanche, pour rencontrer des gens, pour créer le contact, évidemment que ça marche, l'humour, ça marche à tous âges, et dans tous les milieux, et avec toutes les générations, et ça crée des ponts, c'est merveilleux.
Donc vous conseillez plutôt la tolérance, le tact et l'attention aux autres pour séduire?
Chiche.
Chiche, ce serait un joli projet. En tout cas, votre livre fait rire, Sophia Aram, dès l'épigraphe, cette citation que l'on trouve en ouverture du livre. C'est une citation d'un prix Nobel de médecine à la réputation un peu sulfureuse, il faut le dire, qui dit « le testicule engendre l'audace ».
Exactement.
Fallait oser.
Mais écoutez, ça
c'était dans les années 30.
C'était dans les années 30 et vous savez, moi quand j'ai commencé l'improvisation théâtrale, une comédienne d'impro était venue me dire « j'avais 16 ans ». 16 ans, j'étais genre l'ado, pas encore super bien dans ma peau, et je commençais à faire du théâtre. Elle vient me dire « Oh mais ma pauvre fille, pour faire de l'impro, il faut des couilles !» Et ça m'a complètement déconcertée. Je me suis dit « Mince, c'est ça que j'ai pas, comment je vais faire ?» Bah, j'ai fait avec mes ovaires, finalement ça se passe pas si mal.
Merci beaucoup Sophia Aram.
Vous êtes sûre qu'on va terminer sur mes ovaires?
On termine sur vos ovaires, la question qui tue, c'est la fin qui tue. La question qui tue est éditée chez De Noël et pour vous revoir sur scène, on va attendre un peu et merci encore de nous faire rire, c'est absolument essentiel. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Labolo, Yael Co, Guillaume Ploquin à la réalisation, merci à vous, à très vite.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Sur tous les continents, la nature.